L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Gregor von Rézori de Vienne en 1938 à Berlin en mai 1945.
En 1933, quand Hitler a pris le gouvernement en Allemagne, mon père est revenu avec une revue allemande près de moi en me disant « Écoute, c'est très désirable que l'Allemagne redevienne ce qu'elle était, splendide, magnifique, hein, la renaissance du vieil empire. » Mais regarde-moi la gueule de ce mec-là, monsieur Hitler, c'est épouvantable.
C'était un gentilhomme accompli, indifférent au titre, mais aux manières apparemment parfaites. Il aimait envelopper sa haute stature d'un long manteau de fourrure, et ce, bien au-delà de l'hiver, c'était son côté ours grandi dans les Carpates. Il était né sujet austro-hongrois dans une contrée des confins où les villes, disait-il, portent des noms à vous faire fourcher la langue. Sa Bukovine, qui a changé 5 fois de main en un siècle pour finir ukrainienne, n'est plus qu'un souvenir. Il parlait une demi-douzaine de langues et parmi elles, le yiddish. Fils d'un aristocrate antisémite accompli, il avait en effet curieusement partagé sa jeunesse avec des amis juifs et des maîtresses juives. Mais, ajoutait-il, je ne pouvais m'empêcher de me comporter avec les juifs comme les anglais avec les étrangers. Je m'attendais à ce que leur comportement fût différent du mien. Il les imitait à merveille, mais les soupçonnait dès qu'ils se mettaient à lui ressembler. Ses yeux ne se dessillèrent qu'après 1938, qui marqua pour lui une rupture fondamentale. Il commença alors à écrire. Le plus connu de ses livres s'intitule justement « Mémoire d'un antisémite ». Tous sont des variations sur sa vie. Ce sont des autobiographies, mais hypothétiques. Il faut se méfier, chez Gregor von Rézori, le vrai et le faux échangeaient sans cesse leur rôle dans un jeu ironique. Les entretiens dont nous allons diffuser des extraits ont été réalisés en 1991 par Geneviève Ladouès et par Gérard-Julien Salvi, qui introduisait alors ses livres en France.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Le monde avait radicalement changé pendant l'enfance de Rézori. En 1918, il était encore sujet de la double monarchie. En 1919, le voilà roumain. Sa formation heurtée le ballotte entre l'internat en Autriche, l'école d'un pasteur luthérien en Transylvanie, les plages de la mer Noire, où sa mère se comporte comme à Biarritz, et Vienne, évidemment. Il se trouve à Vienne en mars 1938. Depuis ses forêts, son père, tout pan-germaniste qu'il était, lui avait recommandé de se tenir à distance de Hitler, ce badigeonneur qui allait profaner des idées autrefois plus hautes. Ses jours de l'Anschluss, Rézori note que la lumière était pourtant éclatante.
Je peux raconter ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Mais je suis incapable de raconter à quelqu'un qui n'a pas connu le monde avant et le monde après. C'est-à-dire, tout ce qui s'était passé avant, cette 12 mars 38, n'est-ce pas? Le changement pendant une nuit, n'est-ce pas? Du monde était comme si c'était guillotiné et ça n'appartait plus à ma vie. Parce que c'était une atmosphère complètement changée, devenue abstraite, un monde complètement nouveau, complètement changé, complètement qui n'a rien eu à voir avec le monde avant. Alors ça on peut dire, mais de le faire vivant, de le reproduire, c'est presque impossible, n'est-ce pas?
Mais comment expliquez-vous que ce monde ait basculé en une journée?
Et voilà, si je savais le dire. N'est-ce pas? Il est basculé. C'est une chose métaphysique. Alors en vérité, je ne suis pas très tendu d'y croire, mais en vérité, c'était comme ça. C'était comme ça. Vous avez passé une nuit de folie, n'est-ce pas? Tout le monde hurlait, tout le monde était comme ivre de ce changement. Et le matin après, la ville était complètement morte et les gens se regardaient comme s'ils ne connaissaient rien de ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Et quoi, il y avait, bien entendu, pour quelques semaines, il y avait cette ivresse continuée jusqu'au moment que Hitler est venu à Vienne, que les Allemands, l'armée allemande est entrée dans le pays et tout cela. Mais c'était déjà des faits, comment dirais-je, historiques, mais vraiment historiques dans le sens qu'on les vivait comme si c'était déjà le passé, n'est-ce pas? Et on n'avait plus d'avenir, n'est-ce pas? On ne voit pas ce qui va se passer dans le futur. Hein. Et avant ça, on ne vivait que pour l'avenir, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la promesse dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, était énorme, n'est-ce pas? On s'attendait à d'un nouveau monde, d'un changement de monde, qui en vérité, il y avait, mais tout à fait d'un autre sens de celui qu'on s'était imaginé.
Vous n'aviez pas eu le pressentiment de ce bouleversement?
Absolument rien. Absolument rien. Et particulièrement dans mon cas, n'est-ce pas, on était loin de chaque idée politique, n'est-ce pas? On suivait les grandes idées de nos parents, de monarchistes. On donnait beaucoup de chance à l'Allemagne, n'est-ce pas? L'Autriche était déjà perdue, n'est-ce pas? Quoi? On aimait la France, on adorait l'Angleterre. Mais voilà tout ça, des bêtises de cette espèce, n'est-ce pas? Généralisation sans aucune réalité, n'est-ce pas? Sans aucune connaissance même des faits politiques.
Le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne. Par arrêté de police, ce jour, qui marque une page de l'histoire européenne moderne, avait été déclaré férié. Et derrière les automitrailleuses, parmi les hommes en armes, Hitler, acclamé, arrive en conquérant à l'hôtel impérial devant lequel une foule immense s'est massée. Après avoir félicité les artisans de cet Anschluss médité et parfaitement organisé, le chancelier du Reich apparaît au balcon où ont pris place en même temps les généraux allemands et M. Seyss-Inquart, représentant autrichien de l'autorité centrale de Berlin. Le lendemain, le Führer se rend sur la place des héros et gagne l'ancien palais de l'empereur François-Joseph. Le chancelier Hitler proclame officiellement l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, dont les rêves d'hégémonie inquiètent plus que jamais les peuples pacifistes.
Hitler entre à Vienne. Il y a une foule qui Vienne était les rues où il entrait, le Ringstrasse était pané des gens. Il y avait des policiers allemands déjà. Alors déjà quelque chose de très étrange dans l'atmosphère, dans l'ambiance de cette ville. Un petit garçon qui tâchait de grimper à un candélabre pour mieux voir son Führer, et ce policier allemand tirer dessus en disant « Tu es en train de ruiner la propriété du peuple, le candélabre. » Alors ça, déjà autour de moi, j'ai senti les Viennois qui regardaient ce monsieur. Alors j'ai déjà vu le microbe du nain contre les Allemands.
Votre rejet,
oui,
du nazisme, il date de quand? C'était déjà...
Il date du 13 mars 1938. Après 1938, il commençait le grand doute. Et je ne peux pas dire que c'était rationalisé. Quoi, non. Ça m'a pris du temps de comprendre ce que ça a été. Et c'était plutôt physique, c'était plutôt automatique. Et je me suis rendu compte que la plupart de mes amis, mais des amis fraternels, étaient des juifs. Et j'ai vu, c'était pas seulement ça, le changement du monde. J'ai tâché depuis alors d'expliquer que quelque chose de presque métaphysique s'est passé en moi, parce que mon passé était totalement coupé de moi, guillotiné de moi-même, et il était derrière une espèce de glace, je sais pas, comme si c'était quelque chose qu'on m'avait raconté. C'était plus moi du tout. Alors, bien entendu, une expérience de cette espèce commence à vous faire réfléchir. Je crois que c'était une des raisons pour laquelle j'ai commencé à écrire après. Mais ça a encore duré quelques années pour que je commence. J'ai passé mon temps à Vienne surtout, en voyageant aussi un tout petit peu, et... Après, il commençait la guerre.
La guerre, en réalité, avait commencé dès l'Anschluss qui avait installé, disait Rezzori, un froid glaciaire dans une lumière qui ne devait plus rien au soleil. C'était un changement du système des planètes. L'Autriche n'était plus qu'un satellite dans un système nouveau qui allait engloutir la Terre. Mais comme Rezzori avait l'habitude de se laisser gouverner par le moment, il entra sans coup férir dans l'attraction de la capitale du Troisième Reich.
Mais par exemple, je vous racontais que je suis allé à Berlin avec des adresses, avec des petites pensions pas chères du tout, et bien entendu que j'en ai trouvé aucune. Alors immédiatement, je suis allé à l'hôtel Adlon, qui était le plus cher. Là, après, le troisième jour, on n'avait plus d'argent pour y rester, alors j'ai dû le quitter. Mais avant ça, le premier jour, je suis sorti de l'Adlon, vécu comme un élégant de Bucarest, n'est-ce pas? Et je me suis trouvé dans la rue et j'ai entendu le pas de rop, 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 un groupe de jeunes hommes qui sont arrêtés devant moi, qui m'ont regardé. Et un d'eux a dit « Und Art ist Kunst », ça veut dire « l'art des canons ». Alors je suis continué dans la ville en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ? C'était Berlin de mes rêves, n'est-ce pas ? Imaginez-vous, chacun de nous qui était à mon âge, n'est-ce pas, 23, 24 ans, à rêver de son adolescence, de cette ville formidable où chaque chose se passait. Je crois, entre les années 20 et les années 30, Berlin était vraiment une des capitales européennes, sinon la capitale européenne dans un certain sens, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis trouvé sur le Kurfürstendamm. Et là, il y avait déjà cette corruption, ce côté un peu balkanique, un peu maghrébin, n'est-ce pas? Ah, je me suis trouvé, je me suis dit, me voilà de nouveau chez moi. Voilà.
Il ne restait déjà plus rien des années 20 dans le Berlin que vous avez connu?
Non, les coulisses, n'est-ce pas? Les coulisses, on pouvait se promener en tâchant de se reconstruire ce qui avait... Auparavant, par exemple, il y avait toujours le Romanische Café, n'est-ce pas, de grandes femmes. Mais bien entendu, vide et sans les intellectuels, sans les artistes d'autrefois.
Comment vous passiez vos journées dans cette ville? Que faisiez-vous?
À l'époque, j'ai tâché de devenir dessinateur, surtout. C'était ma passion. Mais j'avais certainement raté chaque possibilité de vraiment cultiver ce talent que j'avais. Et là, j'étais dans une pension en attendant de l'argent qui mon père très généreusement m'a envoyé à cette époque. Mais il y avait des difficultés de devises et tout cela. Et je me suis trouvé sans un sou dans ma poche. Alors j'ai dû confesser à ces deux dames ma situation en demandant d'avoir patience avec moi. Ils étaient charmantes et ils m'ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites dans votre chambre tout le temps ?» Parce que j'étais dans ma chambre en écrivant une histoire pour une dame que j'adorais à l'époque avant d'encontrer ma femme actuelle. Et je leur ai dit « Écoutez, j'écris une histoire, je ne sais pas ce que ça deviendra. » Alors, aussi, je crois, pour avoir une certaine sécurité... Si l'argent n'arrivait jamais de la Roumanie, qu'est-ce qu'on aurait fait de moi? Ils ont envoyé chez un éditeur, le Deutsche Verlag, qui était Feu Ulstein. Et étrangement, après deux semaines, un monsieur téléphonait en demandant « Mademoiselle von Rezzori ». Et c'était ça comme roman. Alors j'en ai écrit trois de cette espèce parce qu'on m'a demandé, la guerre était déjà... En préparation, n'est-ce pas, les jeunes écrivains de ma génération étaient déjà envoyés pour se faire tuer. Et moi, j'étais peut-être un talent à écrire, à développer. On m'a pris pour me donner une éducation spéciale pour écrire des romans pour la Berliner Illustrierte. C'était la grande revue allemande. Et Là, je me suis rendu compte que ce que je fais, c'est la bêtise même.
Alors que son père, en bon chasseur, l'avait prévenu, tiens-toi à couvert. Voilà le jeune Grégor, 25 ans, pris au collet à Berlin. Il ne se débat pas, il dira toujours qu'il ne contrôle pas son destin, mais qu'il l'éparpille. Écrire des articles alimentaires pour avoir à Berlin en guerre les poches pleines d'argent et de cigarettes, pourquoi pas? Plus tard, il travaillera aussi bien pour Elle ou pour Playboy. Plus tard, il se prostituera même pour ses cochons de producteurs, comme il dit, faisant le scénariste au cinéma ou aussi bien l'acteur.
Ich bin ja so galant, Mama, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst die Vertrauen, Madame.
Ja, eine kleine Wohnung auf der Wien.
Wirklich?
Hofstadt, erste Tür links. Das Treppenhaus ist dunkel und das Gassel verlassen.
Fantastisch.
Ich wusste, dass es Ihnen zusagen wird.
Ich meine, es ist fantastisch, dass bei dieser Wohnungsnot überhaupt noch jemand eine Wohnung hat.
Der singt, wenn er einkauft.
Rezzori tiendra ainsi le rôle d'un comte dans La Grande Roue de von Radvanihi, une histoire d'aristocrate viennois qui ressemble à la sienne puisqu'ils s'en vont de mésaventure en catastrophe tandis qu'un pavide tourne la roue du Prater et joue la musique. Le témoin, ce 8 mai, 70 ans après le 8 mai 1945, l'écrivain Grégor von Rezzori.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes maintenant parvenus en 1940. Pour Rezzori, berlinois de fraîche date aux antécédents incertains, il s'agit d'éviter de partir au front, dans quelque armée que ce soit, pour y mourir en héros. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Or, la guerre s'étend au pays dont il est toujours ressortissant, la Roumanie, qui perd un à un ses territoires, est contrainte de s'abriter sous l'aile du Reich et de mobiliser. Il va alors en virtuose chercher et trouver toutes les voies d'évitement possibles, au point qu'on a du mal à ajouter foi à tous ses récits. « Je suis écrivain, répondait-il, et en tant que tel, j'ai non seulement le droit, mais le devoir d'élever le niveau de la réalité jusqu'au point où elle bascule dans l'incroyable.
En 40, la Bukovine a été donnée aux Russes. Et moi, j'ai dû me présenter à l'ambassade, l'ambassadeur à Berlin, à cette époque déjà, qui était heureusement un ami de famille, qui m'a dit, écoute, quels sont tes projets? Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a dit, j'ai le devoir de t'envoyer à la maison, mais tu n'existes pas parce que tu es bukovinien. Tu n'as pas d'identité même roumaine. Tu dois rentrer en Roumanie, te présentant avec ton passeport, te faire donner une autre feuille pour ton service militaire. Si tu veux mourir pour M. Hitler, parce que ça va recommencer. Si tu ne veux pas, tu as ton passeport roumain, pour combien de temps est-ce qu'il est toujours valable? Je dis pour un an. Je n'ai pas le droit de te le renouveler. Débrouille-toi, je ne te connais plus. Va-t'en. J'étais de l'autre côté, disons, de culture allemande. Alors, les gens de mon espèce, les gens de la Transylvanie, les gens de la Bukovine, on leur a donné la possibilité d'entrer dans la SS. Là, j'ai dit, excusez-moi, je suis navré, mais il faut que je cherche parmi mes ancêtres, peut-être qu'il y a quelqu'un de juif. Je ne sais jamais. Ouais, voilà. Alors, cette recherche m'a pris 3 ans. De l'autre côté, j'ai dû déposer mon nom, mon arbre généalogique, déjà à l'association des écrivains, parce qu'on n'aurait jamais publié un livre de quelqu'un qui avait une arrière-grand-mère juive. Mais pour le militaire, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'avais la possibilité d'entrer dans l'armée allemande seulement si j'étais allemand. De passeport aussi, citoyen allemand. On ne pouvait pas entrer dans l'armée, on n'avait pas la possibilité de devenir allemand, sauf qu'on était dans l'armée. Alors j'étais entre les deux possibilités comme la tombe de Mohammed, entre ciel et terre. Et ça m'a sauvé la vie.
l'état de suspension dans lequel vit Rezzori présente des agréments. Le contrôle sur la littérature de loisirs qu'il alimente de ses textes n'est pas si lourd. L'aristocratie de la ville, qu'il fréquente de près, n'est pas contrainte de recevoir la nomenclatura nazie et réussit à préserver son petit monde clos. Grégor, de son côté, vit avec une Allemande de Prusse orientale, il va l'épouser. Néanmoins, se promener, jeune et en pleine forme, dans une ville en guerre, sans pouvoir justifier d'un quelconque travail productif pour le Reich, c'était s'exposer à la menace.
On ne savait pas très bien ce que j'ai eu à faire. De l'autre côté, on savait que j'étais en train d'écrire pour une institution comme le Deutsche Verlag, qui était ex-Ulstein, n'est-ce pas, qui en pensait que c'était très bien contrôlé par le parti, mais en vérité, ce n'était pas le cas. Les gens qui travaillaient à l'époque étaient vraiment très, très bien politiquement. Il n'y avait pas même de fonctionnaires, n'est-ce pas? De temps en temps, on entendait une voix, évidemment, registrée, qui disait « Attention !» pendant la conversation téléphonique, n'est-ce pas? Et on savait que ça ne veut rien dire. Cette machine très précise d'attraper chacun, de faire travailler chacun dans son sens, n'est-ce pas? Vous pouviez l'arrêter avec un petit mouvement, avec quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, en changeant d'adresse, en changeant de nom. J'ai appris quelque chose qui est très important, de ne jamais avoir peur. Jamais avoir peur, n'est-ce pas? Immédiatement de faire Clausewitz, n'est-ce pas? Attaque immédiate, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, j'étais arrêté deux ou trois fois, par exemple, n'est-ce pas? On m'a arrêté dans un train parce que quelqu'un m'aurait vu en faisant des dessins de la ville de Stettin, des machins de défense de Stettin. Alors j'étais arrêté par la Gestapo, emporté à Stettin jusqu'à la confrontation avec ce monsieur qui nous a dénoncé, qui finalement a dit, c'est pas lui. Et entre-temps, j'ai commencé à bavarder avec la SS et je leur ai dit que j'étais en train d'écrire, n'est-ce pas pour eux. Et surtout, j'ai protesté, j'ai hurlé, vous êtes fous de m'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont vu que je n'avais pas de peur, n'est-ce pas? À la fin, ils se sont excusés humilement. Et le dernier mot était un de ce type avec un énorme revolver à ce moment-là, en me disant « j'espère, si vous allez écrire sur nous ce petit événement, vous n'allez pas dire trop mal de nous, n'est-ce pas? On vous a traité très bien, n'est-ce pas, monsieur? Et au revoir et à Hitler, et comme ça. » Voyez-vous, il faut que je dise qu'on savait très bien. À partir de 10 ans, 40-41, à Berlin, on savait très très bien qu'on envoyait les Juifs en Pologne pour un destin assez indisible, disons, n'est-ce pas? On le savait. Par exemple, n'est-ce pas, j'étais à Berlin, quand j'étais à Berlin, j'avais un petit électricien qui venait, un petit Juif. J'ai découvert un jour parce qu'il portait sa veste d'une manière gauche. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? J'ai découvert qu'il y avait l'étoile jaune. Et un jour, elle n'est pas arrivée. Alors je suis allé le trouver dans sa maison et il y avait une feuille dans la porte qu'ils ont été emportés. Mais c'était absolument impossible de faire la moindre chose, n'est-ce pas? C'était impossible comme individu de faire. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? On ne peut pas, même pas s'excuser, on peut rien dire, n'est-ce pas? Seule chose qu'on puisse dire, c'est d'être honnête, n'est-ce pas? De ne pas dire « Ah, maintenant, comme j'adore les Juifs hein ». D'être honnête, de dire « Oui, j'ai commis ça, n'est-ce pas? J'ai pas commis de grands crimes, n'est-ce pas? Pas du tout. J'ai pas joint la SS ni contribué à dénoncer quelqu'un ou quoi. » Voilà. Juste le fait qu'on a pensé comme ça avant. C'est très précaire parce que ça peut vous arriver dans d'autres champs aussi. Comme j'ai dit, la seule dignité de cette époque, c'était de d'être avec les victimes. Rien d'autre.
La nuit devient plus épaisse que jamais. Rezzori raconte les quelques taxis qui circulent encore dans l'obscurité qui gagne, une dernière fente de lumière au milieu de leurs phares obturés. 363 bombardements auront touché la ville pendant la guerre. « Bombardés !» crie Goebbels, « nous résisterons et nous vaincrons. Nos meilleurs architectes sont déjà occupés à tracer des plans de reconstruction de nos villes. »
À partir de, disons, de Stalingrad en 1941, on savait que ça va finir mal, n'est-ce pas? Et puis, ils commençaient les bombardements. Et la ville devenait de plus en plus réduite, n'est-ce pas? C'était une ville de ruines à la fin. Et en... quoi, les gens étaient tous, comment dirais-je, très contents, n'est-ce pas? Faisaient bien venir les avions anglais, tout cela, n'est-ce pas? Mais en vérité, j'avais quitté Berlin déjà, disons, en 1943, pour échapper un peu le bombardement, et j'habitais déjà la campagne, mais j'ai dû rentrer à Berlin. Chaque fois que j'ai eu quelque chose à faire avec Deutsche Verlag, je suis toujours arrivé à un bombardement atroce, n'est-ce pas? Et pendant tout cela, il y avait toujours la vie, si vous voulez, quoi, mondaine, par exemple, n'est-ce pas? Le frère de Comte Coudenhove-Kalergi, qui a inventé Pan-Europe, n'est-ce pas? Hans Coudenhove-Kalergi, qui habitait Berlin à cette époque, donnait des dîners avec des clous pour chacun des invités pour se pendre après le dîner, n'est-ce pas, avec ses armatures sur le mur et son blason. Chacun avait son blason et son clou, n'est-ce pas, dans le mur.
Mais 1945 laisse Rezzori miraculer. De tempérament élastique, très doué pour rebondir, il va rejoindre les radios alliées destinées à rééduquer la communauté du peuple nazi. Il témoignera même à Nuremberg. Il décrit ainsi le privilège qu'il a de voyager en train à travers le pays dévasté. Les wagons sont pris d'assaut par des hordes humaines, recouverts de passagers harassés, comme de vieilles coques de bateaux, de coquillages. Et moi, je suis dans un compartiment réservé aux vainqueurs. C'est peu après qu'il bascule dans le monde du cinéma. Les plus curieux le reconnaîtront dans « Viva Maria », le film de Louis Malle, où il joue Diogène et a pour femme Paulette Dubost. Dans la réalité, sa dernière épouse est la comtesse Béatrice Monti, qui sort ses griffes dès qu'il évoque son intermède allemand. Ils vivent tous deux dans une grande demeure de Toscane, qu'ils transforment en résidence pour écrivains. Vieille apatride, Rezzori se félicite d'avoir trouvé, grâce à la comtesse, une patrie en Italie. Il demande néanmoins la nationalité autrichienne en 1984. Le siège social de la résidence des écrivains est à New York. Les entretiens que vous venez d'entendre ont été enregistrés pour France Culture par Geneviève Ladouès et Gérard-Julien Salvi, qui fut l'éditeur infatigable en France de Rezzori. Il date de 1991. L'écrivain est mort en 1998. L'émission, préparée par Zachary Boubli, a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Dimitri Gronov.